Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste.
Midi 13h.
17h, 18h. Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
Place entre chaque mot.
Moi, je vais te mettre au
rushing. Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici. Si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure. Avec moi.
Sur le même ton.
Les citoyens de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense. Encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
C'est sur Divergence FM, tous au poste avec aujourd'hui Julia Chamaudon, Florent Robin, Thomas Gianotti, Manuel Plaza dans la radio pour cette édition réalisée par Vincent Pourageau. Au programme aujourd'hui du théâtre et on parlera également d'environnement. Le théâtre, c'est dans la première partie. Avec le théâtre du Hangar, nous recevrons quelques comédiens qui ont participé à l'aventure longue, aventure théâtrale, 4 costumes en quête d'auteur. C'est d'ici quelques minutes au micro de Florent Robin. Et puis dans la seconde partie, c'est Mara Riwe de l'association Louvre-Tête qui sera au micro de Julia Chamaudon pour la 4e édition de la Semaine de l'Environnement, qui se tiendra à Montpellier du 7 au 13 mars dans différents lieux de la ville. Pour ce qui est de la musique aujourd'hui, eh bien, ce sera un dernier extrait de la nouveauté de la semaine, Tindersticks, nouvel album intitulé Falling Down a Mountain, dont on écoutera un extrait juste après les bons plans de ce vendredi que voici.
Si vous voulez sentir l'esprit du Punch Coco et de la Pina Colada, il y a Monsieur Roux, trio de chansons reggae avec son nouvel album Un été caniculaire, en mini-concert et dédicace à 5h30 au forum de la FNAC au Polygone. L'entrée est libre. Vous les retrouverez à Saint-Jean-de-Védas à la salle Victoire 2 à 20h. Là, ça sera 18€.
On change de registre avec Microbe, avec Edith Azam, poète ou poétesse, quoique le terme n'est pas très joli. Patrice Soletti, guitariste, et son frère Pierre Soletti, batteur, poète, éditeur et performeur, pour une performance donc qui se tiendra à partir de 19h à la Baignoire, 7 rue Bruès, près du cours Gambetta. Musique et poésie mêlées, donc plus de renseignements au 06 14 47 06 99. Vous paierez 8€ pour cette performance.
Il y a aussi Jamon, groupe de funk rock à tendance pop, et le groupe Just for One Night, rock indépendant. Ils se retrouveront ce soir au Baloir à 21h30. L'entrée est de 3€ et une boisson vous sera offerte.
José James, chanteur de jazz new-yorkais, sera accompagné par Grant Windsor au piano, Neil Charles à la basse, Richard Spaven à la batterie et Jordana de Lovely, c'est son nom, au chœur. C'est dans le cadre du Jam Sacre le Printemps et c'est à 21h au Jam 100 rue Ferdinand de Lesseps pour 7 petits euros si vous êtes détenteur du pass culture, sinon ce sera 16 ou 18 euros.
Si vous voulez du jazz, il y a Franck Nicolas et sa trompette avec son groupe créole Manioc Poésie. C'est à partir de 21h30 à la Bodegas Los Caracoles, 8 Place Les Secs. C'est gratuit et donc pas cher.
Dans le registre gratuit et donc pas cher, eh bien, peut-être préférerez-vous du reggae pour ce soir. Dans ce cas-là, c'est du côté de Figueroa qu'il faudra se rendre pour aller voir Control Tower Posse. Composé de King's Hi-Fi, DJ on the Ground, DJ Hayes, c'est dans le cadre de la Southern Convention qui a lieu à la salle Victoria à partir de 22h, mais là c'est un before qui a lieu à 21h au bar La Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figueroa. C'est gratuit donc.
Sauterne Convention avec la MC écossaise Sumte, la DJ Just Dub 4 et MC Taiwan, Lion Roots, Schnadide, Volfanic, c'est ce soir à partir de 22h à la Victoria. L'entrée est de 15€.
Et avec pas mal de noms à coucher dehors, pas bien loin de là, du côté de Saint-Jean-de-Védas, mais à la Secret Place cette fois-ci. Ce sera du ska ce soir avec 12 ska, deux groupes de Montbéliard seront sur la scène, petite scène de la Secret Place. Il s'agit de Test in Vibes pour du ska rock steady jazz et 55 Main Street pour du punk reggae ska. Ça débute à 20h à la Secret Place, 25 rue Saint-Exupéry, zone industrielle de la Lauze à Saint-Jean-de-Védas. L'entrée est libre.
L'univers de la danse maintenant. C'est un ballet Alonzo King's Lines Ballet du chorégraphe américain Alonzo King, Raza duo Virtueuse et The Radif of Convergence pour 9 danseurs. C'est à 20h30 au théâtre Le Cratère, c'est à Alès.
Et on précise que Alonzo King sera présent cette année encore au festival Montpellier Danse. Mais ça, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir un peu plus tard. On passe à la musique classique avec Figure du siècle. Vent d'Est, l'orchestre national de Montpellier dirigé par Nikolai Alexeyev, interprète juste par Farangist Nourala Khodja. C'est une création mondiale. Et puis il y aura également le concerto pour violon numéro 2 de Lera Auerbach. C'est une création en France cette fois-ci. Tout ça, c'est à 20h30 à l'Opéra Berlioz du Corum. Et l'entrée est libre, figurez-vous. Vous pouvez vous renseigner au 04 67 79 99.
Kern, c'est un texte d'Enzo Carman, mis en scène par Hélène Roulier, avec comme acteurs Elodie Buisson et Elsa Dennis. Alors c'est le porte-drapeau d'un groupe d'ouvriers qui s'insurge contre la vente de leurs usines. C'est à 21h au théâtre Jean Villard. Le coût est de 13 euros.
Toujours à l'affiche au théâtre des 13 vents Scanner, nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu. Ce sont des textes et films de Guy Debord, adaptés et mis en scène par David Ayala, que nous recevions bien dans l'édition de mercredi de Tous au Poste. Jean-Claude Bonifay, Sophie Affolder, Alexandre Morand, Roger Cornillac, entre autres, ça c'est pour la distribution. La représentation débute à 20h45 au théâtre des 13 vents à Gramont. Le prix des places varie de 14 à 21 euros.
L'un des plus grands écrivains français, Albert Camus, est adapté et mis en scène par Lydie Paris et Yves Gourmelin. Il y aura des acteurs comme Pierre-Jean Letters et Laurent Tricoire. C'est à 20h45 au théâtre Pierre Tabar. Le coût est de 13 euros.
Et puis 4 costumes en quête d'auteur, on en parlera plus en détail d'ici quelques minutes de cette longue saga théâtrale qui se tient depuis pas mal de semaines déjà au théâtre du Hangar. Et pour ce soir, eh bien, ce seront des costumes, je vous rappelle le principe quand même, des costumes qui inspirent des écrivains, puis des metteurs en scène. Ce soir, c'est un bouquet de brindilles costumes de Françoise Astruc, Vincent Bioulès, Gabriel Mutel et Chantal Rousseau, sur un texte de Thibaut Fenner, mis en scène par Luc Sabot avec Fabienne Auger, Abder Oulda Heidi, Sébastien Portier et Evelyne Torregloza. C'est à 20h30 au théâtre du Hangar 3 rue Nozeran. Le prix des places varie de 8 à 14 euros. Et puis un dernier bon plan tout de même, un bon plan cinéma, Ciné-Science plus précisément. Ciné-Science est un festival itinérant du film scientifique en Languedoc-Roussillon. C'est organisé par l'association Connais-Science. Vous pourrez voir aujourd'hui un lac en plein océan, en planète Clipperton. Un reportage sur le lac de Clipperton en plein Pacifique. Ce sera suivi d'une rencontre avec un chercheur. Et ce sera à 18h30 donc au centre Rabelais. Un peu plus tard, Iriba, des sources de vie au Mali de Jean-François Trébuchon et Franck Renaud. Savane et fragments de forêt humide au sud du Mali, suivi là encore d'une rencontre avec un chercheur. Ce sera à 21h, tout ça à la salle Rabelais, donc boulevard Sarail sur l'esplanade. Et c'est gratuit. Voilà, c'est la fin de ces bons plans. On passe à la nouveauté de cette semaine. Tindersticks avec Falling Down a Mountain, leur nouvel album. Énième album, dixième ou quelque chose comme ça. Stuart Staple et sa bande, ressoudés par le bon air du Limousin. On s'en persuade tout de suite avec No Place So Alone.
He's got his finger on my woman. He's lying in my bed. He may be part of the conversation, but he's listening on the lip.
And there's no place, there's a law, and somewhere you once belong. He's standing at my window, gazing at my magnolia tree, listening to the birds they sing, a song that belongs to me. And there's no place as alone as somewhere you once belong. There's no place as alone as somewhere. He's mooching round my kitchen now, he's whisking up my head. She pushes up right behind him, whispers, baby, come back to bed. And the sun is shining, the birds are singing, the magnolia is in bloom. And there's no place as alone as somewhere you once belong. There's no place as alone as somewhere.
Et on vient d'écouter No Place So Alone des Tinder Stick qui sortent leur album Falling Down a Mountain.
Tous au poste, interview.
Tous au poste sur Divergence FM, le 93.9. Florent Robin au micro et je suis avec la belle Julia. Julia, ça va ?
Merci, merci de, de cet adjectif. Bonjour à toi Florent, bienvenue.
Et nous allons parler théâtre. On parle souvent théâtre quand on est ensemble.
C'est vrai, oui. Et on se retrouve beaucoup pour parler théâtre en ce moment.
Et nous recevons quatre costumes en quête d'auteur qui se jouent actuellement au Théâtre du Hangar. Une grande aventure théâtrale et nous recevons Abder Ouldadi, Evelyne Toroglosa et Sébastien Portier. Je n'ai pas écorché les noms.
Non, c'est parfait.
Voilà, quatre costumes en quête d'auteur. Donc je parlais d'une grande aventure puisque c'est vrai que le projet était un peu fou au départ. Hein, c'était, on part à l'inverse de ce qui se fait habituellement. D'habitude, on a un texte de théâtre et après, y a des costumes qui se font, il y a les comédiens qui interviennent, le metteur en scène. Et là, en fait, c'est un petit peu l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a des costumes qui ont été faits. Et à partir de ces costumes, il y a des textes qui ont été écrits, il y a des metteurs en scène qui sont intervenus. Donc une grande aventure, il y a eu combien de spectacles en tout qui ont été faits sur ces quatre costumes ?
12
spectacles.
Il y a quatre costumes qui sont nés en avril 2008, qui donnent naissance à 11 textes. Et puis en décembre 2009, ce sont 12 spectacles qui sortent de l'œuf.
Alors on arrive donc, je disais, un petit peu à la fin de cette aventure. Donc je voulais avoir un petit peu l'opinion des comédiens sur comment ça s'est passé, cette entreprise. Donc c'est à vous. Nous dire comment vous avez-vous abordé ce projet d'abord et comment ça s'est passé concrètement au jour le jour.
Quel voyage avez-vous entrepris avec Jacques Biolès, qui, je le rappelle, est à l'initiative de ce projet et qui a pensé à la suite d'une lecture qu'il a faite de Molière. Il s'est dit, tiens, le costume est un peu oublié au théâtre, je vais le remettre sur la sellette. Qu'est-ce que ça crée au niveau du jeu des acteurs et puis de la place du comédien.
C'est qu'il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas du tout par quoi commencer.
Peut-être tes impressions, toi, sur cette aventure-là.
Quand on vous a proposé le projet.
Ah, alors quand on l'a proposé, je ne me suis pas projetée sur ce qui allait se passer. C'était vraiment... je ne pouvais pas anticiper, puisque je ne savais pas avec qui je travaillais, sur quel texte. Je ne connaissais que mon costume, c'est tout. Parce qu'à la base, chaque proposition était anonyme. On ne disait pas qui portait le costume, on ne disait pas qui écrit sur le costume. On ne disait pas
qui mettait en scène.
Voilà. Et donc du coup, je, connaissant mon costume, j'essayais de ne pas me raconter d'histoire, en tout cas sur... J'essayais de ne pas me projeter pour pouvoir être vierge de toute interprétation. Et je me demandais, ma seule question à la base était de comment réussir à, sur une période aussi intense et avec tant de spectacles, comment réussir à pouvoir toujours proposer des choses différentes. C'est vraiment la grande question, je trouve, pour nous qui sommes comédiens, c'est comment à un moment donné ne pas s'épuiser quand on travaille sur 4, 5, 6, 7 textes de répétitions différentes dans la journée, un spectacle le soir. Enfin, comment réussir à négocier et à pouvoir proposer encore avec tout ça. Et ça, c'est assez étonnant de voir. On peut puiser et s'étonner soi-même encore sur... Enfin, là, je suis assez étonnée et assez heureuse de voir les différences et les différentes propositions et les différents univers qui ont pu voir le jour.
Le théâtre, se surprendre soi-même, ça te parle, toi, Abder, quand tu as reçu justement bien ce spectacle, cette aventure?
Oui, ça c'est surprendre. Enfin, je rejoins Evelyne. Je pense qu'en les quatre comédiens, on a dû quelque part ressentir un petit peu la même chose. Je me reconnais dans ce qu'elle dit. Donc c'est vrai que moi, par habitude, même dans un projet traditionnel, j'ai tendance, par réflexe, à pas vouloir trop savoir. J'ai tendance à déjà aborder la chose déjà sur scène parce que j'ai très peur de te prendre une mauvaise direction. J'attends la rencontre avec le texte, le point de vue du metteur en scène et puis et j'ai du plaisir à faire ça parce que voilà, j'ai du plaisir à le faire. Oui, on s'est surpris, c'est un projet que je trouve magnifique, traversée avec des hauts et des bas, c'est une traversée avec des hauts et des bas. Mais on est dans un cadre où, quoi qu'il arrive, on est obligé de s'en sortir, je dirais. Et donc là, on apprend sur soi, on apprend sur le théâtre. Je pense, moi, j'ai vu des comédiens qui ont progressé. Moi-même, j'ai progressé ailleurs. Et puis, on apprend énormément en traversant dans la même journée, comme le disait Evelyne, plusieurs points de vue, c'est-à-dire avec deux metteurs en scène ou trois metteurs en scène, avec la représentation le soir, avec des creux aussi dans le planning qui permettent de ne pas lâcher forcément, de travailler autrement. Donc c'est, pour moi, en tout cas, ça a été une vraie école. Une vraie école de théâtre et une vraie école de vie. Parce que j'ai beaucoup appris sur moi et sur l'être humain aussi, nos limites et comment, etc. Et c'est marrant parce que nous tous, du début jusqu'à la fin, je pense qu'on sort de cette traversée un petit peu transformée.
Une performance, alors, en quelque sorte, hein, on pourrait le dire, quand on endosse différents spectacles le même jour. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sébastien.
Une performance, oui, et aussi une... j'ai vraiment l'impression que par cette expérience-là, on retrouve aussi la troupe. Ça permet vraiment, en très peu de temps finalement, en l'espace de 6 mois, on se découvre entre comédiens. Evelyne, je la connaissais par ailleurs. Fabienne, j'avais déjà joué avec elle. Abder, c'était la première fois. Fabienne Augier, c'était la première fois. Et très très vite, il y a quelque chose qui se soude et du coup qui crée une disponibilité sur le plateau. Très rapide et du coup les choses émergent, on n'a plus à se poser les questions qu'on peut se poser à chaque fois qu'on fait une création ou qui prend un mois et demi, on découvre les comédiens, ça doit aller très très vite. Là on a à la fois le temps tout en allant de l'avant, quoi. Et ça c'est assez excitant et ça, en tout cas chez moi, ça fait cheminer des choses pour la suite, quoi. Vraiment ça me rappelle En 98, j'étais allé à Berlin et j'avais découvert la Volksbühne à l'ex-Allemagne de l'Est, et qui est une espèce de maison, enfin, qui était tenue à l'époque, peut-être toujours aujourd'hui, je ne sais plus, par Castorf. Et j'avais passé 3 jours là-bas Et c'était extraordinaire parce que j'ai vu trois spectacles différents avec les mêmes comédiens. Et j'ai senti une force, une cohésion, quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est la même chose ici. Toute raison gardée. Mais voilà, quoi. C'est des choses qui vont permettre, je pense, d'aller vers un ailleurs. Même pour d'autres, je pense. Et une aventure de spectateur aussi.
Donc ça apporte des choses avant, ça apporte des choses pendant, on se nourrit de ce spectacle, et puis il y a l'après, maintenant bien l'aventure se finit, elle va être rejouée sous une autre forme bientôt, mais voilà, on est dans l'après, et dans l'après, comment on se sent en tant que comédien ?
Oui, bon, alors là c'est la grande question.
J'ai posé la grande question.
Oh là là, tu as posé la grande question. Eh bien je ne sais pas du tout ce... Nous, on a encore cette semaine qui, certes, se termine, mais on est encore vraiment en jeu jusqu'à dimanche. Donc, il y a quelque chose où... qu'est-ce qui est après
Faudra c'est... peut-être revenir dimanche pour vous poser la question.
Pour le moment, moi, oui, parce que je j'arrive
ou
pas à y
penser. Ou la
semaine
prochaine.
Non, c'est vrai que c'est pas évident de voir comment, en tout cas, dans le contexte de ce projet, quelle suite pourra être donnée sur les spectacles et surtout la cohésion de troupe, comme tu disais Sébastien. C'est ce qui quand même a été une aventure assez forte, hein, humainement. C'est-à-dire que si tout le monde, je ne parle pas que des comédiens, je parle des metteurs en scène, je parle des techniciens, création, des créateurs lumière, des plateaux, tout le théâtre, s'il n'y avait pas eu une véritable solidarité entre tous, je pense que ça n'aurait pas pu donner ce que ça a donné là.
C'est venu tout seul, cette cohésion-là, cette force ?
Je ne pense pas que ce soit venu tout seul. Je pense que c'est venu énormément de l'intuition de Jacques Biolès d'avoir réuni cette équipe. Il est très intuitif, il a une très bonne sensibilité sur la personnalité des gens et sur leur potentiel et leurs possibilités. C'est très humain. Et je pense que c'est de par son intuition... Et de réunir ces gens-là sur ce projet-là, aussi périlleux soit-il, qu'a pu naître. En tout cas, il a mis tous les ingrédients pour que ça puisse se passer, et je pense que du coup, ça s'est fait. Ça aurait pu ne pas fonctionner, hein, mais il s'avère que là, ça a très très bien fonctionné. Assez fort.
Et est-ce que vous avez eu des échos de spectateurs après les spectacles ? Est-ce qu'il y a eu aussi une évolution des spectateurs qui ont suivi l'aventure ?
Oui.
Ce qui est formidable aussi dans ce projet, c'est que quelque part les spectateurs, quand ils viennent au début, veulent revoir la suite, et puis ils ont aussi certains soirs la possibilité de voir plusieurs spectacles l'un à la suite de l'autre, avec les mêmes costumes, dans des textes différents, dans des mises en scène différentes. Et je pense que c'est assez jouissif pour quelqu'un du public qui voit un comédien qui joue dans tel spectacle et puis qui rentre un quart d'heure après dans un autre. Donc ça, c'est, je pense que pour nous, à des moments où, quand on jouait pas, on allait voir les copains et c'était super, ça c'est super. Et puis vu que ça dure sur un temps assez long, enfin, de les représentations, ça commençait le 8 décembre jusqu'à, donc ça se finira le 7 mars, donc j'en profite, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, venez nombreux. On revoit des personnes qui reviennent et qui veulent savoir la suite, qui reviennent revoir d'autres spectacles, les mêmes spectacles, des fois, ils l'ont déjà vu, mais ils veulent le revoir.
Oui, on a eu parfois des après-midi où, c'était cette semaine, on a commencé mardi après-midi, ça a commencé avec le messager l'après-midi, non, c'était dimanche.
Dimanche,
on a commencé avec le messager, des gens venaient juste pour voir au début, ne comptaient pas rester toute l'après-midi, parce que ça commençait à 14h, ça terminait à, je sais pas, 19h au moins, 19h30. Et il y avait au moins 3-4 spectacles qui s'enchaînaient. Et on a eu la surprise de voir qu'au début, les gens ne comptaient pas rester pour la suite. Mmh. Et en fait, aimer le premier, donc disaient « Oh, j'ai envie de voir le second ». Et du coup, rester pour le second, c'était dimanche après-midi aussi, donc ça laissait la liberté de pouvoir rester un peu... C'était assez souple au niveau emploi du temps. Mais du coup, les gens, au deuxième, disaient « Oh, maintenant, je vais rester ». Et on a eu la surprise de voir que ça grossissait jusqu'au dernier spectacle. Les gens, finalement, sont restés. Ils ont vécu avec nous une traversée toute l'après-midi sur 4 spectacles. Ça, c'est assez beau quand on... Ouais, c'est assez beau de voir que ça se partage vraiment.
Et je compléterai parce que c'est les copains qui ont joué cet après-midi-là. Moi, les spectacles dans lesquels je joue n'étaient pas programmés cet après-midi. Mais j'y étais. Et donc j'étais à l'extérieur et je peux vous... C'était assez jouissif parce qu'on a l'impression qu'il y avait... Il y avait un espèce de spectacle, il y avait un espèce d'événement. En plus, il faisait beau. Donc les gens venaient rentrer, regarder le spectacle, sortaient un petit peu, faisaient un petit tour. Ils savaient à quelle heure le deuxième allait sortir. Ils revenaient 5 minutes, 10 minutes avant. Et puis ils rentraient. Et ça faisait tout un... Dans le quartier, il y avait quelque chose, un fourmillement. C'est comme ça qu'on dit, fourmillement. Il y avait quelque chose de très, très vivant. Et moi, ça me rappelait... Enfin, c'est peut-être délirant, mais ça me rappelait les années où il y avait une espèce d'événement où tout le monde était heureux, où il y avait des frites, hein, c'était avant 2000, un franc, deux francs, où il y avait les gamins qui jouaient, il y avait toute une espèce comme ça, et c'était dans un quartier qui est plutôt calme, surtout le dimanche, je crois.
Un quartier boutonné.
Voilà, très calme, tout est fermé. Et en fait, il y avait un truc qui bouillonnait comme ça, comme le projet en lui-même de l'intérieur. Et c'était super à vivre.
Et chaque petite fourmi fait partie de cette architecture globale hein, qui comprend plein de spectacles, 12 spectacles. On pourrait dire que chaque spectacle est une partie de ce grand tout. Hein. Comment vous pourrez qualifier cette œuvre finale, la continuité, le fil rouge de tous ces petits spectacles entre eux qui finalement forment à la fin une aventure?
le fil rouge, c'est fatalement le costume, ça c'est évident, c'est lui qui a tout échafaudé. Après, c'est très compliqué parce qu'on est encore complètement dedans et on n'arrive pas à prendre de recul. Vraiment, on travaille, on vit les choses et je crois que voilà, pour l'instant, on est peut-être les moins bien placés pour en parler, je sais pas.
Evelyne, tu as évoqué le terme périlleux. Il y a une notion de risque qui est très présente dans cette aventure, puisque justement, ça part du costume, ça ne part pas de forcément d'un texte ou d'une mise en scène à la base. Quel risque, vous avez pu ressentir durant toute cette aventure, tout ce festival, on pourrait dire, de micro-spectacles?
La liste est longue, alors. Il y a de la fragilité énormément sur le plateau. Enfin, vous dites ainsi, mais... au niveau des répétitions, c'est la première fois hein, personnellement que je travaille sur plusieurs textes en même temps déjà. On peut avoir des fois trois services dans la journée de répétition, de trois spectacles différents. Donc ça demande une disponibilité quand même assez intense. Et c'est assez... En plus, les répétitions ne sont pas forcément d'affilée, elles peuvent être entrecoupées. C'est-à-dire qu'on peut commencer en septembre, ensuite en octobre. Pop Rodeo avec Alexandre Morand, par exemple, qu'on joue avec Sébastien Portier. C'était ça, on a commencé au mois de septembre les répétitions. On a eu une semaine en novembre et ensuite on a eu 5 jours avant la représentation au mois de février. C'est vertigineux, c'est-à-dire que quand on joue... Ça demande de se plonger à l'intérieur, ça demande de d'y passer du temps. Et tout d'un coup, c'est tellement frais que d'un coup, 5 jours avant, avoir le spectacle déjà là à donner, c'est périlleux. C'est vraiment une mise en danger qui fait que c'est entier. Ben là, on y va, tête baissée, et puis ça passe ou ça ne passe pas. C'est l'expérience qui veut aussi ça, qui accepte ça, qui accepte qu'on puisse... et en l'occurrence, on a été très étonnés de voir... Ça fonctionnait vraiment, véritablement. Mais effectivement, moi, je me suis sentie des fois comme une funambule. Hein. J'ai dit, là, le texte est frais. J'ai terminé de l'apprendre il y a deux semaines, trois semaines. J'ai 3 semaines de répétition dans les pattes, entrecoupées de d'autres choses. Allez, je fonce. Et puis, avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a, et avec la ligne du metteur en scène, on fonce, on y va. Et c'est assez... excitant, hein. Ça n'empêche pas que vraiment pour nous c'est très excitant de faire ça, mais c'est vertigineux, hein. C'est funambule, ouais.
Ouais. Une fragilité qui peut s'utiliser aussi sur scène, hein. Comment on utilise cette fragilité là?
Oui, elle peut s'utiliser. Après, est-ce qu'on a l'espace, enfin le est-ce que la tête est bien réglée de telle manière à pouvoir se servir de cette fragilité? Est-ce qu'on va bien s'en servir ou pas? Comment ça va ressortir? Enfin, je ne sais pas. Et c'est vrai que, par exemple, les spectacles, il y avait, par exemple, on devait être vigilant. Il y a des spectacles qui se sont joués ou qui se sont répétés il y a longtemps, qui vont se jouer deux fois, et après ils se jouent un mois après deux fois. Donc dans un contexte traditionnel, on a l'impression que le spectacle, à partir du moment où on a passé la première, eh ben, c'est dans les pattes. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut être très, très vigilant pour que le spectacle qui a été joué il y a deux mois puisse être aussi frais. Donc, c'est des fois, entre guillemets, peut-être que je me trompe, c'est l'impression que c'est plusieurs premières qu'on fait, sans compter que d'autres premières se font aussi, etc., etc. C'est vrai que, par exemple, pour Brindy, je prends l'exemple de Brindy, on l'avait répété...
Bouquet de Brindy.
On l'avait répété au début de ce projet. Et finalement, on n'a eu qu'une petite semaine avant de le jouer fin février. Donc, il fallait être vigilant par rapport à tout ça. Et je pense qu'il y a plein... Chacun de nous a pu ressentir des moments de risque intense et toujours la fragilité, ouais, jusqu'au bout.
Pour résumer en trois mots, le risque, le vertige, c'est ça. Et puis un troisième mot, l'excitation aussi que cela peut générer. L'heure tourne, hein, Florent, il me semble.
Oui, je regarde la pendule avec angoisse et ça va être déjà bientôt le moment de se quitter. Les spectacles, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint cette aventure, qu'est-ce qui est, jusqu'au 7 mars, qu'est-ce qu'il y a encore comme spectacle à voir?
Mais ce soir, il y a Bouquet de Brindy de Thibaut Feiner, qui est là d'ailleurs, sur Montpellier, là, cette semaine. Donc, c'est un régal de l'avoir avec nous. Je ne sais pas quelle heure c'est.
Je vais te dire ça.
Alors, je suis perdue dans
mars,
les heures.
On est vendredi, c'est ça? C'est à 20h30.
Voilà.
Samedi 6 mars, donc demain. À 17h, il y a Clin d'œil. 17h15, il y a Le Messager. 18h, il y a Judith. 19h15, il y a Jérôme Pastel. 20h45, il y a L'Effet du Logis. Et le dimanche 7 mars, donc cette aventure se boucle avec Qui a tué le dictateur Alain, à 17h. Voilà. Vous pouvez aussi...
Et le samedi 6 mars, en fait, ce ne sont que des solos.
Voilà, oui.
Ah, il en manque un, en fait, sur l'ensemble du projet. Il y a Le Camp des Malheureux qui ne joue plus, mais... Sinon, c'est que des solos.
Alors, on peut également retrouver cette aventure plus tard, hein, puisque vous rejouez, je crois, en avril, une petite partie de ces spectacles. Non, l'aventure se termine vraiment, me fait ton signe.
Oui, c'est...
Ah, oui, je crois. C'est bien, ou alors, il faut que je m'organise au niveau du planning, il faut me dire.
Donc, voilà, Julie, elle retourne.
Leur tourne, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le www.théâtreduhangartoutattaché.com. C'était 4 costumes en quête d'auteur. On recevait aujourd'hui, Abder Ouladi, Sébastien Portier et Evelyne Toroglossa. Merci à vous d'être venus.
Merci, au revoir.
Sur ces airs grandiloquents, nous passons à notre deuxième interview de ce Tous au Poste. J'ai le plaisir de recevoir Mara et Maria qui sont toutes les deux organisatrices de la Semaine de l'Environnement. Alors la Semaine de l'Environnement se déroule du 7 au 13 mars 2010 dans moult lieux montpelliérains, entre autres conférences, films, forums, actions de rue, spectacles, etc. C'est la quatrième édition, hein, je crois, de cet événement.
Oui, tout à fait. En fait, on a commencé donc il y a 4 ans, en 2007. Et voilà, bah, heureusement pour nous, on est assez contents de voir que ça se pérennise et qu'on arrive d'année en année à grossir. Et ça se voit sur le programme. On passe d'un dépliant 3 volets à un dépliant 4 volets. Et donc voilà.
Un dépliant en 4 volets très fourni, hein, une programmation vraiment, vraiment très éclectique. On va faire un petit tour d'horizon sur cette programmation pour donner un petit avant-goût à l'auditeur. Qu'est-ce que vous pourrez retrouver dans cette semaine de l'environnement ? Alors ça commence le 7, donc dimanche. Hein. Chaque journée a une thématique qui lui est associée. Moi, je voulais vous demander pourquoi avoir fait le choix de ces thématiques-là précises par jour ?
Dès le début, quand on a commencé la semaine de l'environnement, on s'était dit que c'était bien de mettre une thématique par jour parce que ça nous permettait de nous centrer, d'arriver à centraliser sur ce qu'on voulait exactement en termes de conférences, en termes de films, parce que bon, c'est vrai que l'environnement, c'est quelque chose de tellement large qu'on s'y perd, donc il faut centraliser sur des thématiques. Donc après, les thématiques, c'est quelque chose dont on réfléchit au mois de septembre quand on commence l'organisation. Après, il y a des thématiques qui reviennent, comme la biodiversité. Bon, d'autant plus que 2010, année de la biodiversité, donc c'est vrai qu'on peut pas passer à côté. Et après, on a des thématiques qu'on a déjà traitées les années d'avant, donc on essaie de passer à d'autres thématiques. Et il y en a certaines qui nous tiennent de plus en plus à cœur, comme par exemple nature et spiritualité. Enfin, traiter des relations homme-nature, c'est quelque chose dont on n'avait pas traité les années d'avant. Également les rapports sud-nord, qu'on a d'ailleurs décidé d'appeler sud-nord et pas nord-sud. Donc ça aussi, c'est des thématiques qui aujourd'hui dans l'environnement commencent à de plus en plus émerger au niveau d'un large public. Donc je pense qu'il était temps de le traiter. Et nous, ça nous tenait vraiment à cœur. Et c'est vrai qu'en 4 ans, y a tellement de thématiques à traiter qu'on a toujours l'embarras du choix en début d'année.
Alors la première thématique de ce dimanche, c'est Forum associatif. Alors, un petit tour d'horizon de cette journée. Elle commence à 9h30 avec une animation nature. Venez découvrir la faune, la flore, mais aussi le patrimoine historique que nous offre le parc des rives du Lez, guidé par un animateur de l'association Lez Vivant. Donc voilà, on vous donne rendez-vous à 9h30 à l'arrêt de bus Agropolis. Il faut s'inscrire au préalable. Et ça continue avec de la restauration bio locale à prix libre. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous faites sur toute la semaine, hein, la restauration bio locale à prix libre. Avec qui d'ailleurs vous êtes liés pour faire cette restauration ?
Tous les producteurs de l'Hérault. En fait, le but du prix libre, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Essayer de faire en sorte qu'on remette le vrai prix sur la nourriture, parce qu'on a oublié ça ces derniers temps.
Surtout bio.
Oui, surtout bio. Et puis d'apporter des rapports entre les producteurs et les consommateurs qu'on a perdus, les circuits courts, etc.
La vente directe, hein. Puisque oui, finalement, il y a beaucoup d'intermédiaires dans la vente de produits. Aujourd'hui, on le sait bien, on passe par énormément d'intermédiaires, ce qui fait qu'on achète notre viande emballée.
Avec des marges.
Exactement, avec d'énormes marges. Et finalement, les paysans ne s'y retrouvent pas toujours. Donc, c'est plutôt un concept qui commence à fleurir un peu partout pour les petites productions paysannes. C'est de favoriser la vente directe pour avoir un rapport beaucoup plus direct avec
le
consommateur. Ce qui fait que finalement, au niveau prix, on s'y retrouve des deux côtés. Quoi. Et puis au niveau qualité également, hein, ça c'est indéniable.
C'est vrai que ça nous tient vraiment à cœur de lier absolument le bio et le local. Pour moi, il n'est pas du tout question de parler de bio uniquement et d'aller acheter des bananes qui viennent de Madagascar suremballées. Ça n'a pas de raison, mais vraiment d'associer le bio et le local, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir un respect à la fois de l'environnement, de l'économie.
Et puis des hommes aussi, puisque du respect des paysans et des petites productions paysannières qui ont parfois du mal à vivre. Et puis il y a également des films, hein, beaucoup de films débat. Ce dimanche 7, il y aura Food for Everyone à 13h30, des actions canadiennes et australiennes pour une distribution durable des ressources alimentaires locales. C'est un film signé Morinière, Cortas, Lambert et Milton.
un film débat à 13h30, 14h30. Ce sera suivi d'un spectacle qui s'appelle On est ta planeta, des gens d'ici, nous avons besoin de vous. Dans l'ailleurs, voyez, ça ne tourne plus très rond, mais n'ayez crainte, nous ne sommes pas venus faire campagne. Il y a cette idée-là, hein, vous n'êtes pas dans un rapport politique dans cette semaine de l'environnement, mais plutôt une sensibilisation au public de certains thèmes actuels.
Mm-mm. Bah, c'est vrai que nous, on ne veut pas rentrer dans les débats politiques. Enfin, on y rentre, mais on ne veut pas être catalogué parmi des partis politiques. Nous, on fait ce qu'on aime et on n'a pas envie de passer par ces chemins-là. Après, effectivement, en plus, en pleine période électorale, on ne peut pas passer à côté des tiraillements à droite et à gauche. Mais nous, on essaie de continuer, de faire sans ce qui se passe autour. Et de faire les choses parce qu'on a envie de le faire et pas pour essayer de rallier des gens à des partis politiques ou à autre chose. On le fait parce que ça vient de nous, ça vient du cœur. Et donc voilà, il n'y a pas de rachat à droite à gauche. On travaille pour personne, on travaille pour nous-mêmes. Et ça, c'est très important, je pense, de le dire parce qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est quelque chose qui est trop repris au goût du jour par les politiques et pas forcément par leur volonté seule, juste parce que ça fait vendre.
Est-ce que vous avez subi, alors le mot est grand, mais des tiraillements politiques justement face à cette semaine de l'environnement en pleine période électorale ?
Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que, bon, je ne veux pas faire de langue de bois non plus, mais oui, on est tiraillé parce que c'est les élections et parce qu'on sent que c'est vraiment tendu entre les partis politiques. Donc effectivement... en même temps, ça les arrange pas dans une certaine mesure d'avoir tout d'un coup un festival qui leur tombe sur le nez comme ça en pleine période électorale. Et en même temps, ça les arrange pas et en même temps, ça peut très bien les arranger. Mmh. Donc effectivement, on est tiraillé à droite à gauche. Mais bon, on essaie de continuer, de continuer comme nous on a envie de le faire et de pas et d'essayer à ce qu'on nous mette pas trop de conditions. Enfin, c'est un juste milieu. C'est un peu un jeu entre les politiques et et les gens qui organisent des festivals, quels que soient les événements. Mmh.
Surtout que là, c'est l'environnement, donc c'est un thème assez ouais. actuel qui revient dans le monde politique. Et puis également des ateliers, la nature en ville, hein, découvrir des fascinants fossiles à la Comédie, etc. Et puis des tables rondes, les luttes paysannes en héros, convergence des luttes du local à l'international. C'est avec la coalition contre Agrexco Carmel et le collectif de défense de la Salamane agricole. Vous avez, oui, alors on va l'évoquer un petit peu plus tard, mais vous êtes accompagné de beaucoup de partenaires sociaux, de collectivités. Vous êtes un réseau assez dense. On en parlera un petit peu plus tard. Et puis pour cette journée du dimanche, ça se terminera par une conférence publique sur les campagnes en mouvement, des impasses du développement au retour des paysans avec Sylvia Pérez-Vitoria, qui elle nous vient de la ligne d'horizon. Alors voilà, ça c'est le premier dimanche, la journée forum associatif.
Et il y aura une trentaine d'associations sur l'esplanade, donc venez toutes les découvrir, parce qu'il y en a beaucoup à Montpellier
et aux alentours. Vous allez investir la Comédie, c'est parfait ça. Hein, ça relèvera un petit peu la hauteur de ce qui peut traîner sur la Comédie au niveau de la mercantilisation des choses. Comédie, plaque tournante du commerce. Bref, le lundi 8, ce sera la journée nature et spiritualité, avec notamment une inauguration avec une plantation d'arbres. Avec un concert, les Troubles Amour, qui eux nous joueront de la Tarantella Ritano Guinguette, ça promet, c'est à l'Université Montpellier 2 sur la Grande Pelouse. Et puis ça sera suivi bien sûr d'une conférence, débat, d'un film, des films débat. Le mardi 9, c'est la journée de la biodiversité, pareil, atelier, pique-nique biolocal, procession anti-pub, la pub est morte, vive la pub à 17h, enterrement en fanfare de la publicité, place de la Comédie, ça c'est très fort aussi je trouve. Et puis ça se terminera cette journée par un film débat. Et puis également à La Paillade, La Paillade accueille la semaine de l'environnement avec du théâtre conté et puis encore un concert, etc. Le mercredi 10, ce sera la journée de l'habitat autonome avec notamment un grignotage théâtral avec Anne Jenny, comédienne du Théâtre des Eaux. Je rappelle que Théâtre des Eaux, c'est en résidence au Domaine d'Eau en ce moment. Elle présentera son spectacle éco-compatible qui est également à voir au Domaine d'Eau. Seulement là, ce sera gratuit, ce sera sous chapiteau en plus et ce sera à l'Université Montpellier 2. C'est très bien ça, cette participation du Théâtre des Eaux à l'événement, je trouve.
Ben oui, en fait, on s'est aperçu qu'ils étaient justement hébergés au théâtre, au
Domaine d'Eau.
Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, bah, quand il y a des choses qui se superposent comme ça, il y a un moment donné où il faut créer des partenariats, où il faut créer du réseau, et à la fois pour nous et à la fois surtout pour le public, et c'est ça qui est le plus important. Et de pouvoir en plus offrir ça gratuitement, c'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir le faire, quoi.
Mais la gratuité, c'est aussi de vos axes forts de cette semaine de l'environnement, puisque vous proposez, la plupart des manifestations que vous proposez sont gratuites.
Et le but, c'est que ce soit accessible à tous, on le répète, et puis pour que le plus de monde vienne et que l'argent soit pas un souci, un problème pour participer à l'environnement, à cette semaine de l'environnement.
Et puis le jeudi 11, je vais le faire très vite, hein, puisque l'heure tourne, c'est une journée sous le signe de progrès technique. Comment justement le progrès et l'environnement s'allient, se combinent, comment on peut faire? Ça se terminera par une grande soirée green, Balkan Beats sous chapiteau, restauration biolocale, et puis concert avec Anorak, et puis les Kumpania Beats. Le vendredi 12, ce sera rapport donc sud-nord et pas nord-sud, hein, comme tu nous le disais, Maria. Avec notamment une soirée souper cabaret, avec des concerts, un film, un atelier, etc. Le samedi 13, ce sera là une journée aussi placée sur les rapports sud-nord, pardon. Du coup, je m'y mélange. Avec notamment Vélorussion, manifestation festive et revendicatrice pour les alternatives à la bagnole, qu'on peut voir aussi à Berlin. Et voilà, Montpellier aussi, la Vélorussion est en marche. Et puis, concert de clôture. Ce samedi avec quatre groupes qui se côtoient, notamment la Fanfare P4, Dounia, les Troubles Amour et les Trottoirs à Boire. Je pense que ça va être assez festif, tout ça. Toute la semaine, ce sont des stands d'information et de sensibilisation sur l'esplanade Charles de Gaulle, et puis des expositions très diverses, du 1er au 14 mars. Voilà, c'est très dense, comme programme à survoler, entre conférences, films, forums, actions de rue, spectacles, ateliers, expositions. Je pense que vous trouverez quelque chose à vous mettre sous la dent. Et puis, comme on disait, c'est gratuit pour la plupart des manifestations. Donc, c'est très, très accessible à tous. Qui c'est qui a l'initiative de ce projet, de cette semaine de l'environnement? Je crois savoir que c'est l'Ouvre-Tête.
Oui, sur Montpellier, c'est l'Ouvre-Tête. Mais avant même l'Ouvre-Tête et avant même Montpellier, tout est parti de Rennes. C'est un projet qui s'est monté il y a 7 ans à Rennes. Nous, quand on a monté l'Ouvre-Tête, on n'avait pas plus de projets que ça. On était à la sortie des mouvements contre le contrat première embauche. Alors voilà. Et puis, par un réseau d'amis, le dossier est tombé sur notre table et on s'est dit, quoi de plus pertinent qu'un projet comme celui-là, qui intègre à la fois le milieu étudiant, qui ouvre à la fois le milieu étudiant sur un plus large public, qui fait entrer le public dans l'université. Et ça, c'est quand même pas rien, parce que c'est assez rare qu'un public externe arrive à rentrer dans une faculté et qu'il soit intéressé pour le faire. Et aussi, surtout, un festival sur l'environnement qui, à un moment donné, intègre le culturel à l'environnement. Et enfin, on ne parle pas d'environnement comme un truc scientifique qui est complètement à des années-lumière d'un public qui n'est pas du tout dans ce milieu-là, quoi. Et donc, on essaie de l'intéresser par des activités plus culturelles, donc que ce soit par des spectacles ou du théâtre pour les enfants ou ce qu'on veut. Et comme ça, ça sensibilise un public autrement que par des conférences carrées, par des scientifiques carrés. Et voilà.
Je rappelle que c'est une collaboration étroite entre étudiants, associations, chercheurs, puisqu'il y aura des chercheurs du CNRS, des conférences, administration universitaire et collectivité, et que cette manifestation se déroulera sur l'ensemble des universités de Montpellier et sur l'ensemble de l'agglomération montpelliéraine, pas qu'à l'université donc. Merci beaucoup à vous, l'heure tourne, on va devoir rendre l'antenne.
Merci beaucoup, et venez si vous voulez voir le programme sur www.ouvre-tête.fr.
C'est dit, entendu.
À dimanche sur Esplanade.
Merci à vous. On écoute Dounia pour finir.
Ainsi se referme cette édition de Tous au Poste. Merci de l'avoir suivi.
La suite des programmes sur le 93.9, si vous nous écoutez entre midi et 13h, eh bien vous allez retrouver Vincent Pourageau pour sa chronique Sin Extenso d'ici une vingtaine de minutes. Et puis un peu plus tard, à 14h, oui, ce sera la rediffusion de l'hebdo du Sherpa, un magazine hebdomadaire proposé par David Beau. À 18h après la rediffusion de Tous au Poste, vous retrouverez Marie-Pierre Soriano pour son magazine hebdomadaire, lui aussi, Le Zinc, cinéma, musique et culture au sens le plus large, donc pendant une heure. Ce sera suivi d'une heure de reggae avec In Dub Style, et même de dub précisément. Explicite musique comme chaque semaine à 20h30, et puis Elle est libre, ma musique. Voilà, toutes les musiques en libre diffusion, ce sera à partir de 21h. Et la mixtape pour finir la soirée avec Joe Romano et ses mix savants, ce sera un peu plus tard, aux alentours de 23h. Bonne journée à l'écoute des programmes de Divergence.